Merci d'écouter RFI, les 15h à Paris, 14h temps universel. Le journal Florent Guignard. Bonjour Florent.
Bonjour Chantal, bonjour à toutes et à tous. À la une, les habitants de Mayotte livrés à la faim et au pillage après le passage du cyclone Chino qui pourrait avoir tué des centaines de personnes. Également, dans ce journal, les ambitions d'Israël sur le plateau du Golan, occupé depuis 1967. Et cela après la chute de Bachar al-Assad en Syrie. On parlera aussi d'Iris. C'est le nom d'une constellation de satellites que l'Europe lancera bientôt. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez autour de la question « Comment se mettre dans la tête d'une araignée ?» Plus d'eau, mais il n'y en a jamais eu beaucoup, pas non plus d'électricité, la faim qui commence à arriver. C'est une situation catastrophique que vivent les habitants de Mayotte depuis le passage du cyclone Chido qui pourrait faire des centaines et des centaines de morts selon le préfet du département le plus pauvre de France dans l'océan Indien. Certains habitants disent se sentir abandonnés. Voici le témoignage d'un Maoré du centre de l'île principale de Mayotte. Il s'appelle Ulrich et il évoque des pillages.
Il y a des jeunes qui s'introduisent dans les maisons, qui pillent. Ils ont commencé à piller les magasins. Ils commencent à avoir des gens qui rôdent, qui font du repérage. Donc on essaie de se mobiliser les habitants pour faire en sorte d'avoir une présence pour les dissuader. Mais après, une fois que la nuit est tombée, c'est nuit noire, hein, y a aucune lumière. Et puis même allumer une lampe torche, ça, c'est même risqué, dans le sens où vous êtes visible. C'est ça qui est vraiment compliqué. Là, on va essayer de trouver de quoi faire tourner le groupe, au moins aujourd'hui ou demain, le temps que la situation, on va dire, s'améliore, si elle s'améliore. Et puis après, on va retourner sécuriser les habitats, étant donné qu'on est livré à nous-mêmes, donc on essaie de faire au mieux.
Témoignage recueilli par Lola Fourmi, la crainte des pillages, vous venez de l'entendre, la crainte aussi des maladies, notamment avec le choléra, alors que le système de santé de Mayotte a été mis à terre par le cyclone Arambang.
La situation sanitaire est très dégradée selon les affirmations ce lundi de la ministre démissionnaire de la Santé. Geneviève Dariesec fait état des dégâts très importants au sein du principal hôpital situé à Mamoudzou. Comme partout sur l'île, le centre hospitalier de Mayotte est fortement endommagé et plusieurs centres de santé sont devenus inopérants. Les CHM continuent tant bien que mal de fonctionner après avoir subi un important dégât des eaux, notamment dans les services de pédiatrie, de chirurgie, de réanimation, mais aussi au niveau des urgences et de la maternité. Le gouvernement annonce des moyens exceptionnels pour venir en aide à la population. Il est prévu d'installer dans les jours qui viennent un hôpital de campagne pour soutenir les services de santé qui ne fonctionnent plus qu'à 50% de leur capacité. Mais une question se pose, c'est comment acheminer les tonnes de matériel nécessaires à la mise en place de cet hôpital de campagne vu la quasi-destruction de toutes les routes à Mayotte.
Arambang, trois ministres du gouvernement sont arrivé ce matin de Paris à Mayotte. Il y aura aussi à Paris une réunion de crise présidée par Emmanuel Macron. Enfin, les Comores, l'archipel voisin de Mayotte où vivent de nombreux Comoriens, les Comores annoncent un deuil national d'une semaine. Bachar el-Assad sort de son silence 8 jours après son départ, sa fuite précipitée de Damas face à l'avancée des rebelles. Exilé en Russie, l'ex-président syrien affirme que la Syrie est aujourd'hui aux mains des terroristes. Et dans un communiqué publié sur Telegram, Bachar al-Assad dit aussi que son départ n'était pas prémédité et que c'est Moscou qui a exigé son évacuation immédiate. Depuis que le régime de Bachar al-Assad s'est effondré, depuis 8 jours donc, Israël en profite en multipliant les bombardements sur la Syrie. Israël dit ainsi avoir détruit 80% de l'armée syrienne. Et puis le gouvernement israélien veut aussi renforcer sa présence sur le plateau du Golan, occupé depuis la guerre de 1967, Nicolas Rocaille, Israël veut y implanter de nouvelles colonies.
Oui, légalement, il s'agit d'un territoire syrien, mais vous l'avez dit, il est occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Seuls les États-Unis reconnaissent la légitimité de la présence israélienne dans ce territoire où vivent 23 000 druzes. Les membres de cette minorité religieuse aux croyances mystiques issues du chiisme cohabitent avec 30 000 Israéliens et bientôt deux fois plus selon le plan de Benjamin Netanyahou pour qui le Golan annexé doit appartenir à Israël pour l'éternité. Cette présence dans un territoire syrien est déjà une violation claire du droit international et des résolutions de l'ONU, mais Israël va plus loin. Un accord signé en 1974 avait établi une zone démilitarisée entre les deux armées, surveillée par une force des Nations Unies. Mais en profitant du retrait des troupes russes et de celle du régime de Bachar al-Assad, l'armée israélienne a avancé dans le territoire syrien, bien au-delà de cette zone tampon. Elle occupe désormais plusieurs sites stratégiques, une présence militaire et un plan de développement des colonies qui traduit, selon la Turquie, la volonté israélienne d'étendre ses frontières. Une présence temporaire, répond Tel Aviv, qui prépare dans le même temps ses troupes à garder ses positions tout l'hiver.
Nicolas Roquet du service international de RFI. Les pays de l'Union européenne et les États-Unis dénoncent un élargissement dangereux de la guerre en Ukraine face à l'implication nord-coréenne aux côtés de la Russie. Ce matin, Kiev a affirmé qu'une trentaine de soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés ces deux derniers jours aux côtés de l'armée russe dans la région russe de Koursk, région où s'était introduite cet été l'armée ukrainienne. RFI, il est 15h06 à Paris. On va maintenant évoquer et parler des ambitions de l'Union européenne pour renforcer sa souveraineté numérique, notamment face aux opérations de sabotage attribuées à la Russie. La Commission européenne, l'Agence spatiale européenne et un groupe d'industriels viennent de signer à Bruxelles des contrats pour lancer une nouvelle constellation européenne de satellites qui s'appellera Iris 2. C'est la troisième du genre lancée par les Européens après Galileo pour le positionnement et Copernicus pour l'observation de la Terre à Bruxelles. Pierre Benazé.
Iris 2, c'est l'abréviation de infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite. Et cette constellation comptera 290 satellites sur trois étages d'orbite de plus en plus haute, jusqu'à 35 km. Non seulement elle permettra de concurrencer Starlink, mais aussi d'assurer, je cite, la souveraineté européenne en matière de communication. L'ancien premier ministre lituanien Andrius Kubilius est le premier commissaire européen chargé de la défense et de l'espace. Pour lui, les services militaires et civils que fourniront les satellites Iris 2 sont plus que jamais une nécessité.
Nous sommes menacés, nos communications de connectivité sont menacées. Les câbles Internet ont été coupés dans la Baltique. La Russie brouille nos signaux de navigation. La première chose que la Russie a attaquée une heure avant l'invasion à grande échelle était un satellite stationnaire exploité depuis l'Europe dans le cadre d'une cyberattaque très sophistiquée. Les paramilitaires russes font souffrir l'Afrique. Nous offrirons l'Internet à haut débit aux sociétés de soutien, envoyant ainsi un message vital de solidarité.
Avec la signature des contrats, la fabrication des satellites va pouvoir être mise en route avec l'objectif de faire les premiers lancements en 2029 pour que les services grand public soient accessibles fin 2030. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
L'action Canal+ en chute de 20% tout à l'heure à la Bourse de Londres lors du premier jour de sa cotation puisque Vincent Bolloré a décidé de saucissonner le groupe Vivendi, Nathanaël Vitran.
Oui, Vincent Bolloré a fait sienne la devise antique « diviser pour mieux régner ». 7 ans après avoir pris le contrôle du groupe de médias et de communication Vivendi, l'homme d'affaires l'a explosé en 4 entités distinctes. Hachette pour l'édition, Havas pour la communication et donc Canal+ se sépare de ce qui reste de la maison mère. Objectif pour l'actionnaire majoritaire, mieux valoriser l'ensemble. Le groupe Vivendi pesait un peu plus de 10 milliards d'euros sur la place de Paris. Bolloré espère que la somme des 4 filles de Vivendi dépassera 15 milliards d'euros. L'homme d'affaires ultra-conservateur a choisi 4 places financières différentes. Canal+ restera ainsi une entreprise française, mais sera cotée à Londres, un stratagème qui lui permet d'échapper à la fois à certaines réglementations européennes et de bénéficier au Royaume-Uni d'un statut particulier. Pour Canal+, le défi reste de taille. Concurrencé par les grandes plateformes américaines, l'avenir du groupe pourrait se jouer en grande partie sur le continent africain. Le rachat en cours du Sud-Africain Multichoice, qui doit encore être validé par le régulateur, pourrait ainsi asseoir encore un peu plus son assise sur le continent.
Nathanaël Vitran, enfin le fléau de l'alcool en Turquie, l'alcool frelaté. 37 personnes sont mortes en un mois et demi après avoir bu l'alcool frelaté. On compte aussi 77 personnes empoisonnées. 14 personnes ont été arrêtées. 15h10 à Paris, dans un instant, autour de la question.